enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
C'était toute inquiétude de votre cœur, c'est pas mon épouse. J'ai simplement participé à l'entraînement de nos footballeurs. Et celui qui est venu en face, à Rotkevoskopkort, à Holzkopkort. Je me suis donc retrouvé hospitalisé avec une fracture d'un os là. Demain, normalement, je passe encore un scanner. On m'a déjà fait un scanner pour voir s'il faut opérer ou si c'est bon. Moi, je bénis le Seigneur, je crois que c'est déjà bon. Amen. Je bénis le Seigneur. Et puis, le Seigneur va toucher le médecin. Il m'a dit, il suffit de refaire la carrosserie. Je dis, elle est pas mal, vous trouvez pas, non? Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, ça fait partie de la vie. Hein? Souvent, on se dit, ben, on se fend la pipe. C'était le moment, hein, c'est fendu la pipe. Mais ce que j'ai vu quand même au travers de tout cela, c'est que le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous garde et il m'a gardé certainement parce que je vous assure que ça a cogné dur. Moi, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas rencontré le TGV. Et le Seigneur était bon, il m'a rétabli. Il y a eu quelques pertes de connaissances et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé à l'hôpital. Suite aux différentes pertes de connaissances, j'ai dit il faut quand même que j'aille voir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon cerveau et j'ai vu que j'ai un cerveau. Et je suis heureux. C'est-à-dire, vraiment, c'est formidable, j'ai un cerveau. Ça m'a franchement rassuré. Ma femme m'a dit ouais, il est petit, hein, mais ça fait rien. J'ai un sujet qui va certainement vous réjouir ce matin. C'est sanctifié pour servir le Seigneur. Et j'aimerais parler de la sanctification. Et très souvent, lorsqu'on aborde la sanctification, on se dit « Ouah, on va avoir une leçon de morale ». J'aimerais vous dire ce matin que se sanctifier, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui rend heureux. Lorsque vous vous sanctifiez, vous ne devenez pas austère. Lorsque vous vous sanctifiez, vous ne devenez pas triste comme une tombe. Lorsque vous vous sanctifiez, au contraire, vous allez de l'avant et vous voyez la gloire de Dieu. J'aimerais lire avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et à 8. Il nous est dit là ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Souvent nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Eh bien voilà ce qu'il veut. C'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous donner son Saint-Esprit. Amen. Et dans 2 Timothée 2, 20 et 21, il nous est dit, on peut déjà prendre à partir du verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Frères et sœurs, Dieu a de grands projets pour vous. Est-ce que vous le croyez? Dieu a de grands projets pour nous. Il ne nous a pas appelés à vivre dans la médiocrité. Il ne nous a pas appelés à vivre tiraillés toujours de droite et de gauche. Il veut nous élever et il veut pour cela nous transformer afin que nous soyons capables de le servir. Trop de croyants, malheureusement, passent leur vie, excusez-moi de l'expression, mais dans une relative médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais tranché avec le monde. Ils essayent de conjuguer leur vie avec Dieu, avec les plaisirs du monde. Ils essayent, eh bien, en fait, de faire l'amalgame des deux en cherchant la limite du péché, en cherchant jusqu'à où ils pouvaient aller. Ce genre de vie vous mène à une vie frustrée. Vous allez connaître une profonde frustration. En plus de cela, à ce moment-là, la vie chrétienne va être pour vous une vie difficile à vivre. Elle ne sera faite que d'interdits. Tu n'as pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Ceux qui vivent ce genre de vie chrétienne, j'aimerais pas être à leur place ce matin. J'aimerais pas vivre, eh bien, une vie et une relation avec Dieu de ce type-là. Frères et sœurs, la sanctification va au-delà de toutes ces choses-là, elle est bien plus belle. Il est dommage de passer une vie entre deux eaux. Il est dommage de passer une vie dans laquelle vous ne vous engagez pas réellement, dans laquelle vous cherchez tout le temps, eh bien, les limites du plaisir avec ce que Dieu peut approuver. Il est dommage de finir constamment dans l'échec jusqu'au stade où, et ça je l'ai entendu plusieurs fois, certains m'ont dit, c'est trop dur, la vie chrétienne est trop dure, j'ai résisté suffisamment longtemps, je n'arrive plus à résister, et là ils se laissent aller. Et c'est un peu ce qui arrive dans la parabole du semeur. Vous avez le troisième terrain, la bonne semence, il nous est parlé des épines, il nous est parlé des mauvaises herbes. Frère, sœur, ce matin, j'aimerais te dire, la sanctification doit t'amener à te défricher un champ nouveau. Mais si tu ne défriches pas un champ nouveau, si tu essaies de vivre en conjuguant finalement les mauvaises herbes avec le bon grain, tôt ou tard, les mauvaises herbes auront le dessus. Les mauvaises herbes sont toujours plus robustes, ils ont besoin de moins d'eau. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, ça vient tout seul. Les mauvaises herbes, c'est tenace. Est-ce que vous avez déjà désherbé un jardin? Tous les mercredis matins que mon enfance m'a donné, mon papa m'amenait avec lui au jardin. Et c'est là que je devais tirer sur ces horribles plantes, sans confondre les salades avec la mauvaise herbe. Et que, eh bien, je n'arrivais jamais à voir la racine. Je tirais, je coupais, mais la racine, elle restait. Des fois, je me suis dit, Seigneur, pourquoi t'as inventé le jardin? Ça, la vie robuste, c'est tenace. Et si, frère, sœur, tu t'engages avec Jésus-Christ sans te défricher un champ nouveau et sans aller au bout des choses, tôt ou tard, les mauvaises herbes reviendront et prendront le dessus et tu perdras la foi. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est très claire. Jésus nous rappelle que l'on ne peut servir deux maîtres à la fois. On aimera l'un et on haïra l'autre ou vice versa. La Bible nous rappelle également qu'il y avait 10 vierges. Vous connaissez ce texte. Elles étaient toutes les 10 vierges. Elles se ressemblaient terriblement. Elles avaient le même vêtement. Mais les unes avaient l'onction et l'huile en elles. Les autres n'avaient pas d'huile. Et je vais vous dire, pas plus que vous ne vous serviriez vous-même d'un verre sale, Dieu peut se servir d'un temple qui est sale. Si le verre dans lequel vous buvez est sale, que faites-vous d'abord? Qui le lave comme ça quand je viendrai chez vous? On le lave. Ça nous semble tout à fait naturel de ne pas utiliser un verre qui est sale. Pour boire à l'intérieur, on le lave et ensuite on boit. Bien aimé, Dieu ne va pas utiliser un vase qui est un vase vil. Il y a dans ce texte-là, eh bien la Bible nous dit différentes sortes de vases, des vases d'honneur et des vases vils. Dans le temps, il y avait un vase vil terrible. Le vase de nuit. Aucun d'entre nous ne souhaiterait être un vase de nuit. Pour les Alsaciens, un pot de chambre. Ah oui, il y a des vases à usage vil. Personne n'aurait idée d'aller faire la vinaigrette de sa salade là-dedans. Vous riez. Mais vous le savez, personne n'aurait idée. Si quelqu'un a la bonne idée, ne m'invitez jamais à manger chez vous. Pourquoi, dans le monde matériel et naturel, trouvons-nous logique que, eh bien, nous n'utilisions pas certains ustensiles pour certains emplois, et dans le domaine spirituel, nous voudrions que Dieu, lui, nous emploie, alors que même nous acceptons des souillures volontairement dans notre vie, et nous lui disons, Seigneur, occupe-toi de moi, utilise-moi. Il ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas t'utiliser. Il veut d'abord, eh bien, que tu te sanctifies, il veut que tu te purifies. Souvenez-vous, Paul dira, je suis passé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a des croyants qui ont l'art de vivre dans les pénombres. C'est ni la lumière, ni les ténèbres. Ils sont toujours entre deux eaux. Et ils s'imaginent que ça durera toujours. Le temps viendra où vous ne tiendrez pas. Frères, sœurs, le temps viendra où vous ne tiendrez pas. Ce que Dieu veut, c'est une vie sanctifiée. Amen. Alors, dès qu'on parle de sanctification, dès qu'on parle de sainteté, eh bien, dans la tête de beaucoup de gens, cela semble inaccessible. inaccessible. Lorsque vous dites à quelqu'un, mais Dieu veut que tu... Dominique, Dieu veut que tu sois une sainte. Tu es une sainte. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord encore. Tu es en route. Mais aucun d'entre nous n'avons le courage d'appeler l'autre Saint-Claude. Parce qu'on se dit, mais non, c'est utopique. C'est un stade que l'on ne peut pas atteindre. Il n'y a qu'au cimetière qu'il y a des saints. Et ça, finalement, c'est l'image que l'on nous a imprégnée. Imprégnée. Les saints ne sont que nommés une fois qu'ils sont morts. Alors automatiquement, dans notre tête, tu n'es saint qu'une fois que tu es mort. Et c'est vrai qu'au cimetière, tu ne fais plus de délit. Tu te tiens relativement tranquille. Tous les saints que nous connaissons, ils sont en pierre. Ça ne donne pas envie de devenir comme eux, hein. Lorsque je vois les images de saints qu'on nous présente, ce sont des gens toujours figés. On a toujours l'impression qu'ils... Est-ce qu'ils ont vécu ces gens-là? On a l'impression que ce n'étaient pas des vivants. Tiens. Ah. Ça ne donne pas envie. Moi, je veux devenir un saint. Mais pas de ce style-là. Vous avez l'impression qu'on leur a ôté la joie de vivre. Quand vous êtes saint comme ça, vous avez l'impression que la terre n'est plus faite pour vous. Attendez, Dieu a mis dans ce monde des choses belles pour que nous en profitions pleinement. Et c'est pas parce que tu profites de la vie que tu n'es plus un saint. Mais tout dépend comment tu vas profiter de la vie. Parfois, je vois mon papa. Est-ce que ma maman est là? Elle est là. Quand je les vois ensemble et quand je vois ma maman, je me dis parfois, Seigneur, mon papa, c'est un saint homme. C'est un saint homme. Moi, je suis convaincu que c'est un saint homme. Mais imaginez, là, j'essaye de... Broum, mort, chasseau, hein? Mais moi, papa, je le crois. Pour moi, t'es un exemple. Pour moi, t'es un exemple. Mais on le connaît, vous le connaissez. Imaginez que, dans 3 siècles, l'image que nos petits descendants en aient soit ça. Vous et moi, vous savez que c'est pas vrai. Il est heureux de vivre, amen. Hashtag Spack, hop là. Il est heureux. Ça l'empêche pas d'avoir une vie sainte. Lorsque Paul écrit, il écrit aux saints et aux saintes qui sont à Éphèse. C'est quand même pas des statues qu'il écrit. C'était à des gens vivants, des hommes comme vous et comme moi. La sainteté n'est pas un stade inaccessible. Je voudrais le dire ce matin. Nous pouvons y arriver et nous allons le voir ensemble. D'autres, lorsqu'on leur parle de sanctification, ils raisonnent de la manière suivante. C'est l'application d'une morale stricte, d'un ensemble d'ordonnances humaines qui est faite de ne touche pas, ne fais pas. D'ailleurs, regardez bien, Colossiens 2, verset 20-22. Colossiens 2, verset 20-22. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. À la satisfaction de la chair. La sanctification, c'est pas ça. C'est pas ne goûte pas, c'est pas ne ceci, c'est pas ne fais pas cela. Bien que lorsque tu te sanctifies, tu vas t'abstenir de certaines choses, mais la motivation, ce ne sont plus des règles qui sont instaurées comme des lois, mais c'est une relation profonde et personnelle que tu as avec Dieu. Et c'est parce que tu aimes Dieu et que tu veux lui plaire que tu sanctifies ta vie. La base, mon frère, ma sœur, de la sanctification, eh bien, c'est que nous aimons Jésus-Christ. La motivation, c'est que nous voulons devenir semblables à Jésus-Christ. Ce qui nous pousse donc à nous sanctifier, ce ne sont pas des règles, des interdictions. Vous savez, très souvent, eh bien, ce genre de personnes, l'évangile pour eux n'est pas une bonne nouvelle, c'est un évangile fardeau. C'est un évangile fardeau. Ça pèse sur eux. Jésus, lui, nous dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et l'évangile est une bonne nouvelle. Et la sanctification, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas te faire écraser par une série de règles, non. Mais tu vas, sur la motivation et la base de ton cœur, parce que tu aimes Jésus, tout faire pour lui plaire. Savez-vous que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ? Il vient chercher son église, l'église qui est son épouse, elle sera sans rides et sans tache. Pourquoi est-ce que Dominique est heureuse avec moi? Je prends les devants, hein. Parce que je lui fais plaisir. Et je lui fais plaisir, pourquoi? Parce que je l'aime. Elle me disait souvent, ah tu sais Samuel, ça aurait été bien si tu avais eu des yeux bleus. Hop là, boum, regarde, pour toi. Madame, regarde, Enyo, mon arc-en-ciel. C'est l'amour qui doit nous motiver à nous purifier. J'aime Jésus, et parce que j'aime Jésus, je suis en communion avec lui. Jésus dira, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Écoutez bien dans Jean 15, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La sanctification, qui passerait simplement par l'effort humain, est impossible. Et vous pouvez vous flageller, ça ne changera rien du tout. Et vous pouvez aller jusqu'à Paris en poussant un petit poids avec votre nez à genoux, ça ne changera rien du tout, vous ne serez pas plus saint à la fin. C'est votre relation avec Jésus qui va vous permettre de vous sanctifier. C'est votre relation avec lui qui va amener en vous ce désir de mener une vie sainte comme il était saint. Mais j'aimerais vous dire en même temps, Jésus savait être heureux. Jésus vivait pleinement au milieu des humains parmi lesquels il était. Lorsqu'on l'a invité au mariage à Cana, a-t-il dit, ce n'est pas pour moi. Est-ce qu'il a fait cela? Je suis sûr, il a dit aux disciples, super, ce soir, un repas de noces. Et dans le ciel, ça va commencer par un repas de noces. Ça ne va pas commencer par un truc très noir et où on sera tous dans un coin comme ça. Ça va commencer par un repas de noces. Vous êtes invités aux noces, ça c'est une super motivation. Eh baba. Avec Abraham, Isaac et Jacob, moi je me réjouis. Quand tu commences à regarder la sanctification sous cet angle-là, bah tu commences à te dire, mais c'est super. C'est pas un poids qu'on met sur toi qui va t'écraser, c'est fantastique. Alors que signifie sanctifier? Le terme grec, où la racine est la même, mais elle va s'orienter de différentes manières et avoir différentes significations, trois en tout cas. La première, le sens biblique fondamental de ce verbe sanctifier, eh bien c'est et concerne d'abord le salut. Le salut, c'est-à-dire que lorsque vous avez été sauvé, vous avez été sanctifié. Lorsqu'il est dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Certaines personnes interprètent cela de la manière suivante. Si chaque jour je ne suis pas toujours au top, eh bien si Jésus revient, je suis perdu. Mais ça devient une vie misérable. Frères, sœurs, vous ne savez jamais si vous êtes sauvés. Moi je sais que je suis sauvé parce que Jésus est dans mon cœur. Et même si ce n'est pas toujours ok, je désire que ça soit toujours ok. Mais même si ce n'est pas toujours ok, je sais que s'il revient, il me prendra avec lui. Ça je le sais. J'ai été sanctifié par Jésus. J'ai été sauvé par Jésus. Non pas par mes œuvres. Parce que si nous étions sauvés par la sanctification qui se traduirait par des œuvres, ça voudrait dire que notre salut, nous ne le devons pas à Jésus, mais aux efforts que nous-mêmes avons fournis. Alors que c'est faux. Nous sommes sanctifiés. Écoutez bien ce que dit l'Écriture. Dans Hébreux 13, 12, c'est pour cela aussi, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et plus loin, il nous est dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été lavé. C'est accompli, c'est un fait accompli. Lorsque Jésus nous a sauvés, lorsque nous sommes venus à lui, il nous a sanctifiés. C'est-à-dire qu'il nous a séparés du monde. Il nous a appelés hors d'un usage vil pour devenir maintenant des vases d'honneur à sa gloire. Dieu ne nous a pas laissés dans le monde, dans nos péchés. Il nous a séparés du monde. Jésus d'ailleurs le dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'interprétation de ce Vous êtes dans le monde, mais plus du monde. Parfois, ça a été mal interprété et ça a donné lieu à des comportements qui ne sont pas forcément ceux que la parole de Dieu nous dicte. Je l'ai dit tout à l'heure, la ménagère veille à trier ses ustensiles par rapport à l'emploi qu'elle va faire. Par exemple, je sais que Dominique, à la maison, eh bien, elle ne range pas les cuillères avec les pelles du jardin. Je vous le promets, hein. Nous avons un tiroir précis dans lequel nous avons tout ce qui concerne l'alimentaire. Quand vous allez chez moi dans la salle de bain, eh bien mes brosses à dents sont dans un endroit spécifique. Elles ne rangent pas les brosses à dents avec la brosse des cuvettes. Ça vous semble normal, hein? Est-ce que ça vous semble normal? Dites donc, vous êtes sûr que ça vous semble normal? Papa, toi t'en as plus besoin. Il me dit toujours, chez moi c'est pratique. Quand ça me fait mal, je les mets dans une enveloppe et je lui les envoie au dentiste, les dents. Frères et sœurs, pourquoi voudriez-vous que Dieu, qui veut faire de nous des vases d'honneur, eh bien, ne cherche pas à nous purifier, à nous mettre à part. C'est ça. Tu es sanctifié, tu es mis à part. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Amen. Tu vis maintenant une vie pour le Seigneur. Ta motivation, c'est ta communion avec Dieu. Et si tu te sanctifies, c'est parce que tu aimes Jésus et tu veux lui devenir de plus en plus semblable. En Jésus, il n'y avait aucun péché. Il était saint, parfaitement saint. Amen. Alors continuons un peu ensemble. Est-ce que ça signifie que parce que nous avons la grâce, et parce que finalement, ce n'est pas sur la base de nos mérites, nous pouvons quand même encore conjuguer de temps en temps notre vie avec le péché, loin de là. Paul le dira, quoi donc, Romains 6, pécherions-nous pas parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Je voudrais aller un pas plus loin. Vous êtes donc sanctifiés, c'est un fait accompli. Si quelqu'un ici n'avait pas reçu Jésus dans son cœur, alors vous n'êtes pas sanctifiés. Et toutes vos bonnes œuvres ne suffiront pas pour vous justifier devant Dieu. Elles sont même inutiles. Ce n'est que l'œuvre de Jésus accomplie pour nous à la croix qui nous sanctifie. Amen. Maintenant, la sanctification et la sainteté. Dans 1 Corinthiens 1, 2, il nous est dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et je pourrais dire ce matin, à l'église de Dieu qui est à Bourtzwiller, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Il y a deux choses très claires dans ce texte. Première, un fait qui est accompli. Ceux qui ont été sanctifiés. Ça, c'est un fait accompli. Vous êtes d'accord? Vous avez été sanctifiés. Dites-le à votre voisin. Dites-lui, tu as été sanctifié par l'œuvre de Jésus-Christ. Dites-le lui. S'il n'est pas sûr, rassurez-le, tu as été sanctifié. Tu n'es pas sauvé ce soir parce que, eh bien, tu n'as pas fait d'erreur dans la journée, tu es sauvé parce que tu as été sanctifié. La deuxième chose, le fait que nous avons été sanctifiés est un fait accompli. La deuxième est un fait à venir, appelé à être saint. Appelé à être saint, ça c'est un fait à venir. C'est devant nous. Certains peut-être y sont, d'autres sont en route. Et la route qui nous mène à la sainteté, c'est la sanctification. La sanctification consiste en quoi? C'est une action de purification constante qui nous mène à la sainteté. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le chemin qui vous mène à la sainteté. La sanctification, c'est chaque fois que tu as l'occasion de te purifier par rapport à un péché, par rapport à quelque chose, parce que tu aimes Jésus, tu le fais. Ça, c'est la sanctification. Et au bout, elle t'amène à la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est un état de pureté totale. Ça, c'est la sainteté. Et il est vrai que peut-être ce matin, beaucoup se disent, ben, moi on ne peut pas m'appeler encore saint. Mais vous êtes en route. Frère, sœur, j'aimerais vous encourager. Tu n'es peut-être pas encore saint. Un peu malsain parfois, mais tu es en route. Mais tu es en route. Te décourage pas. Te décourage pas. Tu es en route pour devenir un saint. Non pas quand tu seras mort. Moi je crois que tu peux devenir un saint du temps de ton vivant. Ne criez pas tous en même temps. Je crois que nous pouvons être saints du temps de notre vivant. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Et en même temps, vous êtes saints et vous êtes joyeux. Parce que la joie du Seigneur fait votre force. Vous êtes saints et vous jouissez pleinement de la vie. Parce que la sainteté ne signifie pas que vous n'ayez pas le droit de jouir de ce que Dieu a mis sur cette terre. Et très souvent, c'est comme ça qu'on le voit. Saint, c'est être austère. C'est presque comme si on vous avait stérilisé. Vous savez, on vous avait mis dans un truc, on ferme, puis on chauffe. Puis ensuite, on a un saint qui sort, il est stérilisé. Non, frères et sœurs, c'est pas ça. C'est une œuvre profonde du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans ton cœur. La parole te lave, la parole te purifie. Amen. Maintenant, je voudrais continuer. J'aimerais simplement rappeler ce que Paul dit aux Romains. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Et dans 1 Thessaloniciens 4, nous l'avons lu tout à l'heure, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Voilà ce que Dieu veut, votre sanctification. Et nous est dit par ailleurs, vous devez être saint comme je suis saint. Croyez-vous que le Seigneur nous demande quelque chose que nous ne pouvons pas faire? Croyez-vous qu'il place la barre tellement haut qu'il nous dit, eh bien, il faut que tu sois saint, et puis intérieurement, il se dit, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Non, moi je crois que tu peux y arriver. Je crois que tu peux y arriver, mais tu ne vas pas y arriver par tes propres efforts. Tu vas y arriver parce que l'Esprit de Dieu va agir en toi. Tu vas y arriver parce que tu aimes Jésus. Et troisièmement, tu vas y arriver parce que tu t'es décidé d'agir en conséquence. Parce que la sanctification, ce n'est pas quelque chose de passif. Je vois souvent des frères et des sœurs qui prient. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Et ils ne font rien pour. La sanctification appelle ta participation. Tu vas participer à ta sanctification. Tu vas devenir actif dans ta sanctification. Romains 16, 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Frères et sœurs, cela va passer par des engagements, des prises de conscience, des renoncements. Cela va passer par des moments où je vais crucifier ma chair. Cela va passer par des moments où je vais dire non à certaines choses. Cela va passer par des moments où je vais abandonner certaines habitudes. Et je vais le faire parce que je sais que ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Je sais que si je reste dans cet état-là, je ne pourrai continuer. J'aimerais prendre un exemple pratique et concret dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Daniel. Vous connaissez tous le récit de Daniel. Je vais peut-être ne pas le lire, mais simplement le résumer pour les personnes qui seraient là pour la première fois. Daniel était un jeune juif amené en captivité à Babylone. Là, à Babylone, le roi Nebuchadnezzar décide de mettre à part. Il met à part certains jeunes hommes dont les critères étaient assez stricts. Il fallait qu'ils soient beaux, il fallait qu'ils soient intelligents, etc. Il les mettra donc à part pendant 3 ans pour les former afin qu'ils servent à la cour. Ces quatre hommes, c'est Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et voilà qu'à un moment donné, le roi va venir et va dire qu'il veut qu'il soit nourri avec les mets fins de sa propre table. Et à ce moment-là, Daniel va prendre une position, il dira qu'il ne prendra pas des mets qui viennent de la table, des mets souillés qui viennent de la table du roi. Je voudrais, avec ce récit, faire le parallèle avec chacun d'entre nous. Daniel était captif à Babylone. Daniel était étranger à Babylone. Daniel n'était pas chez lui. J'aimais vous rappeler ce matin que, de la même manière, il nous est dit dans 1 Pierre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Amen. Mon pays, physiquement bien sûr, pendant que j'y suis, c'est la France. Mais mon vrai pays, c'est le ciel. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant du pays. Mon frère, ma soeur, vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices du ciel. Est-ce que vous saviez que vous étiez aussi important que ça? Ambassadeur. Jésus dira, et je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. J'aimerais là faire une précision. Est-ce que le fait d'être dans le monde mais de ne plus être du monde signifie que nous devions nous retirer de toutes activités? Certains chrétiens ont dit, mais je suis dans le monde, alors il faut quitter le club de football, par exemple, tiens, une idée en passant. Je suis plus du monde, donc plus de pétanque. Je suis plus du monde, donc nos enfants vont plus à l'école de musique. Est-ce que c'est ça ce que Jésus a voulu dire? Jamais. Jamais, au contraire, il dira, vous êtes le sel de la terre, amen. Ça ne m'empêche pas d'être engagé en tant que parent d'élève. Ça ne t'empêche pas d'être investi, même dans ton village. Tu deviens, t'es peut-être adjoint au maire ou je sais quoi. Ça ne t'empêche pas de t'investir. Ça ne t'empêche pas d'être là, dans la société dans laquelle tu vis. Par contre, tu ne pratiqueras plus les péchés comme ils les pratiquent. Tu es dans le monde, mais tu refuses le système qui est basé sur le péché. Si en tant qu'adjoint, on te demande de mentir, simplement parce qu'il y a 2 millions qui ont été un peu éloignés dans une poche profonde. En France, ça n'arrive jamais, mais ailleurs, ça arrive, vous savez, ça peut... Ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu te retires du conseil municipal, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois droit et intègre. C'est là que tu ne participes plus au monde et au péché dans le monde. Donc, comprenez-moi bien, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, nous sommes dans le monde, mais plus du monde, selon les principes, la philosophie de ce monde. Nous sommes dans le monde, ça ne veut pas dire que nous nous retirions de tout, au contraire, nous pourrons être engagés et être des témoins à la gloire du Seigneur. Allons plus loin ensemble. Daniel était sous l'influence de Nebuchadnezzar. Et nous sommes, la Bible le dit, le monde gît sous le malin, c'est une réalité que vous ne pouvez pas éviter. Le monde gît sous le malin, il y a une influence démoniaque. Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous êtes fidèle, vous passez pour un débile léger. On trouve que ce n'est plus normal. Aujourd'hui, eh bien, l'on trouve que c'est normal de ne plus se marier, l'homosexualité est normale, avorter c'est normal. Actuellement, on est en train d'étudier la loi pour l'euthanasie, donc bientôt, eh bien, le petit grand-père... Vous savez, on nous parle d'exception. Je me souviens quand on parlait de l'avortement, on parlait de l'exception. Vous vous souvenez de ça? Il me semble que l'avortement, c'est pas devenu l'exception, mais la règle. Et en fait, aujourd'hui, c'est un avortement de confort et rien d'autre. Ah, vous comprenez, j'ai pas envie d'un gamin maintenant, on avait prévu de partir en vacances et on va l'avorter. Je vois pas où est la nécessité. Alors aujourd'hui, on revient. Oui, mais vous comprenez, c'est parce que la personne souffre tellement qu'on va lui aider à partir. D'abord, ça fait longtemps qu'ils en aident. Deuxièmement, on nous impose cela comme si c'était quelque chose de normal. La vie appartient à Dieu, Dieu l'a donnée, Dieu la reprend. Et ce n'est pas à nous de la reprendre. Frères et sœurs, ce matin, oui, nous sommes dans le monde, nous sommes sous une pression. Nous le voyons dans les collèges, dans les lycées, ce qui passe à la télévision, etc. Nous sommes sous une pression. Et Daniel va être confronté à la tentation de se laisser souiller. Écoutez bien ce qu'il est dit au verset 5. Et le roi, dans la version d'Arbi, il est dit, « Et le roi assigna pour chaque jour une portion fixe des mets délicats du roi et du vin qu'il buvait pour les élever pendant 3 ans, à la fin desquels il se tiendrait devant le roi. » Une portion fixe des mets délicats. C'était pas n'importe quoi qu'il leur servait. C'était pas le cassoulet de William Sorin. C'était pas simplement, eh bien, le McDonald's qui les servait. C'était des mets fins. C'était du vin de qualité. Lorsque Daniel sera confronté à cela, il pouvait y avoir une tentation en lui. Mais Daniel aimait Dieu, connaissait Dieu, et il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Mon frère, ma sœur, quand le diable va venir te tenter, il ne va pas venir te tenter avec ce que tu n'aimes pas. Vous croyez qu'il va venir vous tenter avec ce que vous n'aimez pas? Par exemple, si vous n'êtes pas sportif du tout, vous croyez qu'il va venir vous tenter avec un sport? Non. Mais il va venir vous tenter, peut-être, avec la télévision. Faites pas de sport, mais toute la journée, puis ça rentre, puis ça rentre. Il se peut que ce matin, il y ait quelqu'un ici qui a un problème d'alcool. Frère, ne vous en faites pas, il va pas venir vous tenter avec la badoire. Non, non, il va venir te tenter là où tu es faible. Il va venir te proposer ce que tu aimes. Ce qui a été proposé à Daniel était quelque chose qu'il aimait et le diable va venir. Pour les frères, ce sera peut-être sous la forme d'une belle femme. Bien qu'aujourd'hui, on est même plus sûr avec les hommes. Vous riez. Mais quand vous vous faites draguer par un homme, vous avez peur? Un jour, j'étais avec ma femme, c'était où, nouveau? À Saint-Tropez. Puis je vois un qui nous regarde et... Alors je me suis dit, ah, ça y est, il a branché Dominique. Eh ben non. C'était moi. Mais quelle horreur! Même dans le péché, on n'est plus normal. Vous savez, aujourd'hui, on est presque consolé quand quelqu'un pêche normalement. Bon, c'est pas bien ce que t'as fait, mais au moins t'es encore normal. Frères et sœurs, c'est peut-être sous cette forme-là, et mes sœurs à l'inverse, c'est peut-être un homme sur votre lieu de travail. Ah, votre mari n'a jamais le temps de vous écouter, mais lui, il est tellement patient, il est doux. Puis lui, il vous écoute, oui. Ah, il t'a pas écouté cette semaine. Mais viens, je te paye un pot, je vais t'écouter. C'est bon. Puis en plus de ça, il est beau. Il est beau, le diable ne nous envoie pas que des citrouilles. Il va nous envoyer là où on est fragile. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être, tiens, quand tu pianotes sur Internet la nuit. Ah oui, je sais que c'est moins cher Internet le soir. Hein, c'est moins cher, c'est pour ça que tu le fais. Mais c'est dommage quand tu dérapes parfois que tu arrives sur un site qui... Oui, ça t'arrange parce que il n'y a personne. Ta femme, elle dort déjà, tes enfants sont pas là, puis tu as le sentiment intérieur que finalement, personne ne sait. Personne ne sait. Mais c'est que dans ta tête que ça se passe, mon frère. Daniel n'était pas prêt pour un peu de temps. Et une nourriture même raffinée de se souiller face à l'Éternel. Il avait dit non, non. Mes amis, il y a plusieurs manières de réagir. Il y a ceux qui cherchent la limite, jusqu'à où je peux aller. Elle m'a regardé, moi je pourrais quand même la regarder en retour un coup pour voir. Puis je la regarde, et puis elle me regarde nouveau. Puis tiens, je vais regarder un peu plus longtemps pour voir combien de temps elle va me regarder. Mais je ne vais pas pécher. Ah non, je ne vais pas la convoiter. Puis un peu plus longtemps, et tout d'un coup, c'est fini. T'es pris? T'es comme dans le livre de la jungle? Fais confiance. C'est trop tard déjà. Quand tu sais que t'es en train de chercher la limite, c'est que t'es déjà en train de pécher. Mon frère, ma soeur, quand tu prends conscience, quand sur ton truc internet là, tu regardes, tiens, tiens, cliquez là. Ah, Seigneur, je suis ton enfant. Mais un petit cliquetis, ça serait pas mal. Je pense pas qu'ils y vont déjà maintenant. Hein? T'as sûrement, il y a encore une page intermédiaire. On pourrait. Et puis c'est embêtant parce que tu peux pas regarder au-dessus de l'écran pour voir dedans, ça sert à rien. Il faut cliquer. Puis tu cliques et. Oh, mais c'est horrible. Oh, qu'est-ce qu'ils ont? Oh! Oh! Puis après, tu vas te coucher, Seigneur, je te demande pardon, tu vois ces pensées impures, etc. Dieu veut que tu te purifies à chaque moment. Amen. Dieu t'appelle et te rend sensible. Il y a une autre manière d'agir. Eh bien, c'est Ésaü. Ésaü, regardez, Ésaü, cher Ésaü. Ésaü, lui, était le plus aîné de la famille. Ésaü, lui, était celui qui avait le droit d'aînesse, c'est-à-dire que si son père mourait, il devenait le chef de famille, et en plus de ça, il recevait le double d'héritage. Il rentre, il était à la chasse, son frère Jacob avait fait la cuisine, et il avait fait un plat de lentilles. Frère, sœur, un plat de lentilles. Et il fait le plat de lentilles. Et puis, Ésaü rentre, il a faim. Ésaü dit, donne-moi des lentilles. Jacob lui dit, si tu me donnes ton droit d'aînesse. Ésaü dit, pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles, pour satisfaire un tout petit peu le ventre. Je te donne le droit d'aînesse. Pour un plat de lentilles, il a renoncé au double de l'héritage et il a renoncé à être chef. Pour un plat de lentilles, mon frère, parfois c'est pour une femme de passage, un soir, que tu vas sacrifier toute ta famille. Que tu vas casser ta relation avec Dieu, avec les autres. Est-ce que tu crois que tes enfants valent la peine d'être mis sur l'autel pour une femme? Ma soeur, c'est peut-être pour un homme, et un homme dont tu ne sais même pas ce qu'il dit sur toi une fois qu'il est parti. Pour un homme, est-ce que tu es prête à mettre ton mari sur l'autel? Est-ce que tu es prête à mettre tes enfants sur l'autel? Est-ce que tu es prête à renoncer à l'éternité pour un homme, pour une relation sexuelle dans laquelle souvent tu es frustré? Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est ça la réalité. Est-ce que pour un péché, même si tu vas me dire, oh, mais chez moi c'était pas une heure, ça a duré. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer à l'éternité pour cela? Est-ce que tu es prêt à aller en enfer? Parce que c'est de cela qu'il s'agit en finalité. Alors vous allez me dire, mes frères, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes sanctifiés en venant à Jésus-Christ. Et là vous parlez d'enfer, vous allez voir, on va y arriver, on va parler d'un texte très précis à ce niveau-là. Est-ce que tu es prêt? Que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe et Dieu m'entende, Seigneur garde-moi. Mais je veux pouvoir regarder ma femme dans les yeux en rentrant et regarder mes enfants dans les yeux. Et je veux plus que tout au monde pouvoir me mettre à genoux devant toi et savoir que tu m'entends. Et savoir que tu m'utilises comme un vase d'honneur, que tu peux mettre ton esprit en moi. Est-ce que cela veut dire que ceux qui ont chuté, eh bien, sont maintenant condamnés? Loin de là. Si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Mais quand je parle de sanctification, je parle de prise de position. Je parle de renoncement. Daniel va renoncer. Il est dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ça, c'est important. Ils s'y engagent de nouveau. Certains y retournent, se repentent et reviennent. Mais certains s'y engagent de nouveau dans les souillures du monde et là sont vaincus. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus la capacité de se repentir. Voilà ce qu'il est dit. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mon frère, ma soeur, c'est sérieux, c'est de ton éternité qu'il s'agit. Ésaü était prêt à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, mais moi j'aimerais te dire que pour une femme, une nuit, c'est pas plus qu'un plat de lentilles. Un homme, même pendant un an, c'est pas plus qu'un plat de lentilles. En comparaison de l'éternité, ça vaut même moins qu'un plat de lentilles. Ésaü aura plus que toi, à la fin. Frères et sœurs, Daniel résolut de ne pas souiller, verset 8, je vais vous le lire dans la version second et dans la version français courant, il est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il résolut, version français courant, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur. Et version d'Arby, il est dit, et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point. Ça passe, la sanctification passe par ton implication, par des choix. Tu dis ce matin, Seigneur Jésus, je décide de ne pas me souiller. Seigneur Jésus, cette femme qui me convoite sur mon lieu de travail, je vais mettre les choses au clair. Seigneur Jésus, ce réseau internet sur lequel je tombe régulièrement, je renonce maintenant à cela, quitte à abandonner pendant un temps le web, mais j'y renonce. Seigneur, je fais un choix. Mon frère, ma soeur, ce matin, toi, tu dois le faire. Les mets étaient attirants, je le disais tout à l'heure. Parfois, on se dit, on est seul. Personne ne voit. Vous savez, je suis parfois en voyage. Je suis parfois dans des hôtels, dans des grandes villes, etc. Vous ne me voyez pas? Personne ne me voit. Personne ne sait ce que je fais. Je dis toujours à mon épouse, ma première raison d'être fidèle, c'est Dieu. C'est ma première raison. Et tout de suite après, c'est toi. Mais c'est ma première raison. C'est ma première raison. Lorsque David aura péché, il dira, j'ai péché contre toi et toi seul. Mon frère, ma soeur, la première des raisons, c'est parce que nous aimons Dieu. Et nous voulons ne pas nous souiller, mais nous purifier. Alors tu te dis, mais personne ne voit. Le psalmiste David dira, Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi. Devant aussi, tu poses ta main sur moi. T'imagines pas que tu es seul. T'imagines pas qu'au moment où ta femme dort et où toi tu es en train de pianoter sur un site que tu sais te souiller, tu es seul. Il sait tout. Il voit tout. Ensuite tu viens à l'église, tu dis Seigneur bénis-moi. Il veut te bénir mon frère, mais il te dit d'abord purifie-toi. sanctifie-toi. Moi, je suis mort pour te sanctifier. Maintenant, toi, marche dans le chemin de la sanctification parce que je veux que tu sois un vase d'honneur, que tu deviennes un saint, que tu deviennes une sainte. Alors, je termine. Frères et sœurs, face à la tentation, vous êtes seuls. Face à cette femme que vous regardez, personne d'autre que vous ne peut détourner le regard. Face à cet homme, mes sœurs, que vous convoitez peut-être, vous êtes seul. Personne d'autre peut faire le choix à votre place. Devant ton téléviseur, mon frère, personne ne peut arrêter si ce n'est toi. Devant ton réseau internet ou parfois ton téléphone, personne ne peut arrêter si ce n'est toi. C'est ta responsabilité, elle t'incombe. Et ce matin, j'aimerais te dire, ne joue pas. Il est dit dans Apocalypse que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ce matin, s'il y a des hommes qui se souillent et qui ont résolu de ne pas changer, j'aimerais vous dire, allez-y à fond parce que vous êtes perdus. Souillez-vous plus encore. C'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu vous le dit. Tu te souilles, tu aimes ça et tu veux continuer. Alors souille-toi plus encore. Mais pendant ce temps-là, d'autres vont se sanctifier. Mon frère, ma soeur, ce matin, ça s'adresse à l'ensemble de l'Église. J'aimerais te dire qu'à la fin, il y a une différence et elle est notable. Il y a une différence. Dans Daniel, il est dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets de la table du roi. Moi, j'aimerais te dire, Daniel a eu le courage de renoncer. Il se portait mieux que les autres. Et si tu as le courage ce matin de te lever et dire, « Moi, Seigneur, j'ai décidé de ne pas me souiller. » On reparlera un jour ensemble. On fera la comparaison avec ceux qui ont choisi notre voie et tu verras que tu te porteras mieux, ta femme se portera mieux, tes enfants se porteront mieux, la bénédiction sera sur toi, sur ta famille, sur ce que tu entreprends, parce qu'il y a toujours une différence entre celui qui se sanctifie et celui qui se souille. Toujours, toujours, la différence sera de plus en plus grande. Dans Malachie, il est dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Frères, sœurs, j'ai démarré dans la vie avec des jeunes hommes de mon âge en classe. Nous avons choisi différentes options. J'ai eu la grâce, et j'aimerais dire aux jeunes gens qui sont là, qui ont des parents chrétiens, bénissez Dieu pour cela. J'ai eu la grâce d'avoir des parents chrétiens qui m'ont aidé à connaître Dieu très jeune, qui m'ont aidé à le respecter. Avec certains de mes amis, eh bien les voies furent différentes. J'ai mes amis de classe qui ont choisi de se souiller. J'en ai déjà enterré, overdose et compagnie. D'autres sont divorcés, d'autres boivent. Il y a une différence. Et la différence se fera également au milieu du peuple de Dieu. La différence ne se fait pas seulement avec les païens. Ce matin, il était parlé d'arbres. D'arbres qui n'ont pas de fruits. D'autres qui ont des fruits avec des vers. Et d'autres qui ont de bons fruits. Il y aura une différence. À la fin, il y aura une différence. Et Dieu fera la différence. Aujourd'hui, s'il t'encourage, s'il m'encourage à me sanctifier, ce n'est pas pour que je vive avec des interdits, c'est pour que je vive heureux. Et j'aimerais te dire, il n'y a pas plus libre que celui qui se sanctifie. Un homme saint est un homme libre. Un homme libre, tu veux être libre? Sois saint. Il n'est plus sous la pression du péché. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus de tentation? Si. Mais la tentation en elle-même n'est pas un péché. Céder à la tentation est le péché. Alors ce matin, en conclusion, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel est devenu un vase d'honneur. Non plus un vase à usage vil. Ce matin, je ne sais pas ce que tu es, mais j'aimerais te dire, tu peux devenir un vase d'honneur. Et si tu es un vase à usage vil, j'aimerais te dire, frère, ne reste pas un vase à usage vil. Sœur, ne reste pas cela. Tu peux être différent. Je vais t'encourager. Non, c'est pas inaccessible. Non, c'est pas hors de portée. Dieu te dit, sois saint, c'est que tu peux le devenir. Alors saisis ce matin. Dis, Seigneur, je le veux. Seigneur, je le veux. Seigneur, je le veux. Oui, ça va passer par des prises de position, par des renoncements. Que toi seul, tu peux décider. Mais fais-le. Et tu te porteras bien. On fera la différence entre celui qui se sanctifie et celui qui se souille. Pouvons-nous fermer nos yeux? Est-ce que mon frère pourrait juste jouer? J'écouterai ce que dit Dieu. Ce matin, je vais faire un appel pour terminer. J'aimerais tout d'abord dire à ceux qui ont péché, qui ont chuté, Jésus est là pour pardonner dans la mesure où tu ne persévères pas dans ton péché. Et tu dois ce matin, eh bien, tout mettre en œuvre pour cela. La Bible me dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est le moment d'être sauvé par lui, ou de continuer à rester sauvé par lui. Mais j'aimerais te dire également, passer une vie dans laquelle tu es toujours partagé, frustré, dans laquelle tu as l'impression que la vie chrétienne, elle n'est faite que d'interdits, eh bien, c'est une vie chrétienne malheureuse. J'ai choisi de suivre Jésus, et j'ai choisi de le suivre à fond. Il y a un chant de nos bien-aimés Claude et Julia qui dit, si tu as choisi Jésus comme patron, il faut le servir à fond. Et mon frère, ma soeur, ce matin, si tu as choisi comme Jésus comme patron, alors vis pour Jésus à fond. Tu n'en seras que plus heureux et plus libre. Il y a ce matin, je le crois de tout cœur, des hommes, des femmes qui doivent prendre des décisions. J'aimerais vous demander de vous lever à votre place parce que je veux prier pour vous. Ceux qui savent, je dois prendre une décision. Seigneur, je décide de me sanctifier. Seigneur, je décide de ne plus me souiller. Ou peut-être simplement, Seigneur, je désire m'engager dans cette vie de sanctification qui me mène à la sainteté. Je veux connaître la sainteté. Lève-toi à ta place et nous prierons. Nous gardons nos yeux fermés. Là où vous êtes, vous vous levez. Vous répondez non pas à mon appel. Vous répondez simplement là, à l'appel de Dieu. Seigneur, je ne veux plus être un arbre avec des racines superficielles. Je veux que mes racines se plongent profondément là où il y a l'eau pure et fraîche. Je ne veux pas que l'on lève mes feuilles et qu'il n'y ait pas de fruits. Je veux porter du fruit et du fruit qui demeure. Seigneur, je ne veux pas laisser mes fruits et bien être corrompus par le péché. Je veux, Seigneur Jésus, je veux ce matin porter du fruit qui demeure et qui soit du bon fruit. Je décide dans mon cœur de ne plus me souiller, mais de me sanctifier. Seigneur, tu es là et tu vois tous celles, tous ceux qui sont debout devant toi ce matin. Tu connais leur lutte, leur combat, les domaines dans lesquels ils sont fragiles. Seigneur, je te remercie parce que ce matin, je peux leur dire de tout cœur, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, eux sont peut-être là et se disent, mais moi je n'y arriverai pas. Je te bénis parce que tu n'as pas mis la barre trop haute, tu vas les aider. Mais en même temps, tu les appelles à faire des choix. Donne-leur la force, Seigneur. Donne-leur la capacité de se sanctifier. Que l'on puisse dans quelques temps faire la différence entre celui qui se sanctifie et celui qui se souille. Seigneur, je sais que tôt ou tard, les fruits des uns et des autres seront révélés. Nous pouvons nous cacher pendant un temps. Nous pouvons jouer pendant un temps. Nous pouvons faire semblant pendant un temps. Mais vient le temps où tu amènes à la lumière ce qui était caché dans les ténèbres. Père, ce matin, je te prie. Que la sainteté vienne dans nos vies. Que la sainteté vienne dans leur vie. Qu'ils puissent avec Paul dire, je suis passé des ténèbres à ton admirable lumière et je suis resté dans la lumière. Seigneur, je ne toucherai pas les mains souillées de la table du roi. Le roi de ce monde, le diable vient, me propose toutes sortes de mets. Je sais qu'ils sont souillés. Des mets pour mon âme, des mets pour mon corps, et je sais qu'ils vont me souiller. Seigneur, je refuse ces mets-là, mais je décide de me nourrir de ta parole. Je décide de me nourrir de toi. Je crois que je me porterai bien en suivant tes commandements. Sois béni, Seigneur, que ta grâce vienne sur eux, que ta paix soit sur eux. À toi la gloire. Je vais demander à toute l'Église de se lever. Et nous allons nous lever en disant, Seigneur, nous voulons être saints, un peuple saint, une Église sainte, sanctifiée. La vraie sainteté, et j'aime le dire, ne consiste pas à ôter tous les péchés du monde pour que vous ne soyez pas tentés. Mais la vraie sainteté, c'est que, en plein milieu des péchés qui peuvent se pratiquer, vous ne soyez pas tentés, vous n'y touchiez plus. Un alcoolique libéré, ce n'est pas un alcoolique à qui l'on a pris toutes les bouteilles et qui, dès qu'il en voit une, chute. Un alcoolique libéré, c'est un homme qui, quand il voit la bouteille, peut la voir et ne plus être tenté. Un homme saint, c'est un homme qui peut vivre dans un monde même où il y a le péché, mais qui ne vivra plus selon le monde du péché. Oh, ce matin, Seigneur, étends ta main. Nous voulons être une église sainte. Est-ce que vous pourriez prier avec moi? Lui dire, Seigneur, moi je veux que ma vie soit sainte et je veux que l'église soit sainte.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.